je vais commencer par vous, Philippe Curval, autour de cette réédition de l'Europe après la pluie. Déjà, bien sûr, avec une question un peu attendue, c'est pourquoi cette réédition aujourd'hui?
J'ai trouvé que je me projetais depuis très longtemps de faire cette réédition parce que finalement, c'est un roman qui a été écrit au début des années 70, représente une certaine similarité avec ce qui se passe aujourd'hui, puisque ce Marcom qui est créé est la base du roman. La base du premier roman, c'est Chamanité, dans lequel l'Europe se refait complètement sur elle-même et chasse tous les migrants. Et donc, fait un retour en arrière sur elle-même, bloque tout, dit tout est mieux qu'avant. Donc il y a un certain rapport avec ce qui se passe aujourd'hui. Donc déjà là, il y avait la matière à pouvoir rééditer. Comme il ne s'est pas reproduit pour certains livres, montrant que certains auteurs de science-fiction ont pu voir il y a quelques décennies ce qui pouvait se produire par la suite. Et par la suite, donc, j'ai écrit d'autres romans, dont un autre qui s'appelle Le Barbare Chevalier Intime, qui lui aussi traite d'une manière différente, c'est-à-dire la révolte un peu de nuit debout, de la révolte écologique, une espèce d'anarchie sur le sens idéal, et une espèce de fragmentation en général du pays et des petites églises et chapelles qui se réunissent les uns différenciées des autres. Et enfin, le troisième roman, l'histoire d'un individu qui est mort au cours de la guerre entre le Mexique et les États-Unis et qui va remonter dans le temps et essayer d'arrêter la création du Marcom. Donc tout ça représente un ensemble autour d'une image de l'Europe d'aujourd'hui qui m'a donné envie et qui a donné envie aux éditeurs de le faire. D'ailleurs, je leur ai parlé un jour et finalement il y a 8 fois que je vais le faire, c'est l'Europe.
L'éditeur Tiravolt. Et est-ce que vous avez modifié des choses pour cette réédition?
Non, absolument pas. Par exemple, il y a des tas de choses qui se rapportent avec. Il n'y a pas. Internet n'existe pas véritablement. En 61, mais par exemple, tout le monde a des bases, des votes, des smatchs. Le vote est électronique et tout le monde correspond par web. Donc là, il y avait déjà. Absolument rien changé de tout ce qu'il y avait déjà à l'époque. J'ai simplement, comme les romans avaient été tapés à la machine, c'est moi qui ai tous les numérisés pendant les numérisants, et évidemment que je ne les ai pas relus, mais j'ai relu le texte lui-même et donc amélioré les styles. Et sinon, les romans sont tels qu'ils sont parus. Je n'ai rien ajouté qui puisse faire croire que j'étais un anticipateur génial, encore plus génial que
il a été conçu comme une trilogie au départ.
Non, absolument pas. Moi, j'ai d'abord été cette humanité, puis après, durant le fait que j'ai eu le prix Apollo, que c'est un roman qui a vraiment frappé pas mal de gens, à l'époque, je me suis dit, finalement, autour de ça, il y a autre chose à dire sur l'Europe en train de devenir. Parce que depuis très longtemps, je pense, dès que j'ai eu 15 ans, j'ai toujours pensé que l'Europe allait se faire. Je pensais qu'il y a un Européen totalement convaincu.
Vous aviez 15 ans, c'était en quelle année?
Et quand j'avais 15 ans, c'était en 1904. Donc, j'ai pensé par ailleurs que les malheurs allaient venir parce que finalement, toutes les colonies et tous les gens qu'on avait, à qui on avait apporté soi-disant la civilisation, et démontré comment était le monde tel que je voudrais être, allaient un jour revenir à nous voir et donc ça prendra. Des problèmes absolument essentiels. C'est-à-dire que c'est une comparaison avec la chute de l'Empire romain que j'avais pensé, sauf que ça se passait de manière différente.
Et la chute de l'Empire soviétique, non?
Alors là, c'est la seule chose qu'on puisse reprocher, c'est que bon, j'ai toujours pensé qu'un jour ça arriverait à l'unification, mais je ne pensais pas que ça arriverait aussitôt. Donc finalement, mon Marcom est composé, alors qu'à l'époque, il n'y avait que 7 États, il est composé de 13 États. Il n'y a pas tous ceux qui sont de l'autre côté
de ce titre-là, de l'Europe après la pluie, il est venu pour la trilogie, maintenant pour la réédition
ou... Non, il s'est passé que le place. Et donc, j'avais trouvé que c'était absolument cohérent avec l'ensemble de ces trois romans. Donc, avec un tiers sur la recherche et les traces des droits. Là, d'avoir trouvé les droits, on lui a dit oui, moi j'ai les droits, mais je n'ai pas l'œuvre. Donc, il a été cherché à un musée américain et la police, je crois, l'image qu'on lui a envoyée. Donc, finalement, on a réussi à avoir la couverture que je n'avais jamais vue pour la traduction en anglais américain.
Vous êtes lecteur de Philippe Carval. Vous avez lu à quel âge ce roman?
Je n'ai pas lu le roman de Philippe Carval. C'est simple. Alors, je suis un coming out, là, c'est un peu gros.
C'est mal.
Pour lui, surtout. Mais je lis à ce moment que je vais m'y plonger avec grand plaisir.
C'est bien.
C'est penché pendant des années. Et donc, voilà, c'est déjà toute histoire d'énorme. Quelque chose qui a certainement freiné beaucoup l'avenir de l'Europe. Par ailleurs, donc, il est évident que comme c'est un monde totalement différent de celui qui est le monde d'aujourd'hui, puisque on est totalement refermé sur elle-même, donc les individus cherchent complètement la réalité, donc ils vivent entre eux. Donc, en général, des pétroides qui va venir qui va parvenir à traverser ce milieu infranchissable et qui va provoquer des revenus absolument étonnants à l'intérieur de ce monde.
Parce que le Marcom, au départ, quand il a été créé, il est inventé, il partait de bonnes intentions, il y avait des normes de sécurité, par exemple, des normes d'hygiène, c'était des choses pour que la vie en société soit plus supportable, soit plus agréable.
Oui, c'est mal parti, oui. Non, parce que d'abord, il y a eu le fait qu'on ait toutes les différences sont parties d'un seul coup, à Poitiers. Et voilà, donc en réalité, ça s'est très bien passé parce que depuis, il était véritablement d'une part de se priver complètement les parties, puisque on ne vote plus pour les hommes, mais on vote pour les idées. Donc tout ça, c'est les votes électroniques. Et puis ça peut changer très facilement, c'est-à-dire que un jour au lendemain, donc il y a le personnage principal qui est un ministre de l'Intérieur qui essaie de garder sa place et qui va avoir affaire à quand même une partie de l'homme qui existe à l'intérieur du Marcom, qui sont les dissidents. Les dissidents qui habitent sur les autoroutes abandonnées et qui vont préparer une révolution à table. On verra peut-être bien par la suite.
Et cette idée de création d'identité européenne, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est pas une bonne idée?
Ah, bah, si, de toute façon, naturellement, moi, je suis européen convaincu. J'ai toujours rêvé, même sous l'occupation allemande, je rêvais déjà de l'Europe. Je n'avais pas de l'Europe allemande sous Hitler, mais je pensais que, de toute façon, depuis très longtemps, c'était une certaine. ça ne pouvait pas fonctionner.
L'identité européenne, est-ce que c'est une bonne idée?
Alors, en soi, c'est une bonne idée, c'est une excellente, extraordinaire idée. Moderne, novatrice, première fois dans l'histoire que des peuples s'assemblent volontairement pour créer un espace commun, qui malheureusement, à mon avis, a été dévoyé. construction entre les sept apôtres dans les évangiles, c'est la tentative de réconciliation entre le monde européen et le monde européen catholique, le monde moyen-âge musulman, où deux entités très bien distinguées, notamment l'histoire des unes et de l'autre, et une tentative aussi de reconstruction de ça. Sauf que les enfants sont pas d'accord, les enfants disparaissent par rapport. Et voilà, donc c'est ça qui est pour. Ce sont des critères effrayants, la liste de l'économie, c'est juste pour attirer l'attention, c'est pour déplacer le point de vue de l'attention. Des réflexes immédiats, oui, on peut, par exemple, voter extrémiste, on peut avoir cette tentation de voter extrémiste parce qu'on a l'impression de se protéger soi-même, mais plus on se fait, plus on crée des murs. Alors, Trump veut faire le mur entre le Mexique et les États-Unis, Israël fait le mur entre la Palestine et Israël, enfin, des murs, partout, le mur du grand, il faut vraiment mettre le mur, on en refait partout, des murs pour moi, c'est un échec de la civilisation. Parce que non seulement, c'est une barrière de séparation qui nous peut, mais en plus, il n'arrête rien du tout. C'est complètement un rêve qui correspond à un fantasme pur dans la vie. Et donc, moi, je suis pour l'effondrement des murs, l'effondrement des frontières et la constitution d'une entité humaine, simplement terrienne, des régions différentes de la Terre qui ont leur particularité. Moi, je sais, ça paraît être une utopie, mais moi, je crois beaucoup à ça parce que il faut simplement. Ça m'a même fait peur, du coup, parce que après, je me dis que la responsabilité de l'auteur, finalement, est-ce qu'il a fait attention sur un problème qui a ce que devenir, ou est-ce qu'il crée le problème? Est-ce qu'on se pouvoir, est-ce que le mot est créateur, est-ce que on fait une autre responsabilité dans cette histoire, est-ce qu'il faut faire que les autres soient
de l'intégrisme chrétien peut subvenir en réponse à ça.
c'est dans le sens où nous serions tous capables de le faire. Nous avons tous en nous les germes de la fanatisme, les germes de l'extrémisme. Et ce sera vraiment des couleurs. Il y a une guerre de chantelet qui s'appelle Les Bien Mangés, exactement. C'est des frères de cette histoire-là.
C'est moi, j'ai
si vous voulez. Si vous voulez, ouais. On a dans cette histoire-là que, oui, finalement, des braves gens d'une campagne périgourdique, qui compte, sont capables de torturer et de faire crier un type pour le manger, parce qu'ils sont vraiment, il est supposé, souvent, des chrétiens. Oui, c'est ça, oui, c'est supposé, ça que j'ai dit. Ouais. Voilà, c'est ça, mais bon, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un mécanisme qui permet à ce moment à des gens se transformer en monstres. N'importe où dans l'école, vous prenez des supporters de football, vous prenez n'importe quel groupe dans certaines circonstances, vous se conviennent de façon monstrueuse, et c'est plus limite. Et donc, en créant en réaction à une montée extrémiste qui crée de la peur, on va être capable de nous. C'est que la peur devant le danger, c'est qu'on est capable nous-mêmes de se transformer en monstre à n'importe quel moment. Donc, le monstre, ce n'est pas forcément l'autre, c'est aussi soi-même. Il y a une réflexion d'un philosophe qui s'appelle Raphaël Antonin, je crois, qui a pris raison là-dessus, qui m'a beaucoup intéressé en disant que les systémistes ne sont pas des monstres, ce sont des humains. Ça, c'est pas autant ce que je dis, hein, parce que je pense que le verrou civilisationnel peut sauter à n'importe quel moment. On l'a vu dans différentes études, ce qu'on appelle l'histoire de la révolution. La révolution, les horreurs qui ont été commises dans le département chinois, c'est-à-dire en Vendée, ne dépassent tout temporairement. C'est vraiment des monstruosités que dignes des nazis, et pourtant c'est au nom de la liberté qui était fraternité. Donc les extrémistes sont partout, et possible, et c'est juste. Et sur le surveiller, nos mécanismes sont clairs pour l'exercer dans la guerre.
Exactement, je suis profondément athée en social médiatique, je n'ai même pas traité du problème possible de l'arrivée de l'islam. Et par contre, dans d'autres romans, en particulier dans mon groupe en tant que moi, je suis totalement optimiste, j'ai créé des religions mixtes, c'est-à-dire qu'il y a des prêtres qui sont à la fois pour le clergé Jésus et le fils d'Allah. Il y a des mosquées-églises, donc la mixte de mosquées et d'églises. Donc je crois que, comme je suis très optimiste, je pense à la fusion de ces religions qui n'ont absolument aucune consistance pour moi, mais qui, justement, parce qu'elles n'ont pas de consistance, devraient fusionner pour arriver à quelque chose qui ressemble à une mixité d'humanité, qui ressemble à ce que devrait être l'avenir de notre population. Si jamais l'homme sort de sa condition animalière pour devenir un peu plus intelligent.
Mais même si vous ne croyez pas, elles sont quand même là, les religions, vous les percevez comme un danger.
Ah oui, forcément, pour moi, parce que bon, j'ai été élevé par des jésuites, j'en ai vraiment souffert énormément. Et en vrai, c'est quelque chose que je suis comme un peu jésuite moi-même, et ça, c'est un peu plus rien. Mais je sais ce que c'est que la religion, je sais les perversions qu'elle peut apporter. Je pense que la seule façon qu'elle disparaisse, c'est qu'elle s'immisce ensemble. Parce que sinon, cette fusion entre les trois religions monothéistes, finalement, elle est vite à disparaître. Et donc, il y a trois religions qui ont le même Dieu et qui se combattent ensemble. Donc, c'est personnellement, pour moi, l'espèce de révolution intime qui confirme ma religion athée.
Mais c'est ce qu'elles sont censées faire, les religions, normalement. Elles sont censées relier les gens entre eux. Effectivement, ce qui advient dans les faits aujourd'hui. Alors, vous avez dit, Pierre Bordage, quelque chose, où est quelque chose comme où est l'humain derrière l'islamiste. C'est quelque chose d'assez fort comme interrogation. On peut aussi se poser cette question-là par rapport aux migrants. Parce que quand on voit dans les journaux, dans les médias, comment on traite les migrants, on a l'impression qu'on voit des vagues, un vaste ensemble de gens qui sont en train de nous déborder, de nous submerger. Et donc, ça me paraît intéressant, votre point de vue, c'est-à-dire de prendre des personnes, de leur donner une identité et de nous les faire connaître. Alors, je vais donner un peu la parole à Christophe Nicolas, puisque vous nous parlez de votre roman. Alors, l'espace n'est pas aussi vaste que l'Europe. présent pour jouer la jeune fille.
Donc je vais essayer de prendre mon rôle à cœur. Donc je vais répondre à la question, mais là, en écoutant parler, je me suis dit qu'effectivement, dans mon second roman, Proverbe Harmonie, bon, je ne peux pas raconter le lien, puisque ça a à voir avec la résolution finale, c'est un thriller à suspense. Mais effectivement, il est question d'une certaine construction d'Europe. Le projet Harmonie, c'est le nom du projet européen, finalement. Pour en arriver là, pour forcer les gens qui refusent cette construction-là, c'est un peu l'actualité. C'est-à-dire qu'ils sont en train de construire l'Europe, donc personne ne le veut. Et jusqu'à présent, l'illusion démocratique persistait vraiment. Après, il y a eu les événements de 2005, notamment en France, où on ne pas refondre les mandats aux gens. On est d'accord dans le sens qu'on veut donner à l'Europe, les gens ont clairement dit non. Et du coup, comment on est dans un pays démocratique, bien entendu, on a fait appel au Parlement qui a. Et donc, on sait depuis lors qu'on est en train de construire une Europe dont personne ne veut, dont une majorité d'Européens ne veut pas. Et pourquoi je raconte tout ça? Je suis juste en train de poser la question. Je n'ai pas du coup d'être dans la file de ce que je voulais dire. Ah oui, donc
moi, j'étais parti sur les communes.
Voilà. Donc, il se trouve que le titre de mon roman s'appelle Le Camp. Donc, ça a été trouvé. Un lien avec le débat européen, et effectivement, à ce moment-là, c'est l'immigrant. Donc, comme tu disais, c'est aussi une façon de dire bon, nous, si on ne veut pas que les autres nous submergent, nous prennent les termes marins, aquatiques des vagues. Donc, c'est une forme de repli national, multinationaliste. À double sens, puisque l'Europe qui nous construit, c'est l'Europe des multinationales, finalement. Donc, qui vont dans le sens, tu parlais de. J'ai compris une sorte de dictature économique, finalement, c'est-à-dire que les normes, les lois, les autres, ne sont pas faites pour les gens qui vivent sur le territoire, c'est clairement. Pour favoriser la production de richesse pour tout le monde, sauf les gens qui produisent la richesse. Bref. Et donc, pour fédérer ces peuples qui ont finalement le point commun, ce qu'on essaie de nous prendre, le point commun des Européens, c'est d'être blanc, chrétien. Cela est habité dans une région qui va du Portugal du Portugal à l'Allemagne, mais finalement, après, comme je disais, finalement, il faut aussi l'Ukraine, la Turquie, et pour nous protéger des hordes de pauvres qui déferlent sur nous et qui sont ni blanches ni chrétiennes. Donc, je pense que c'est, on a trouvé cette dichotomie-là pour dire. Pas comme nous, donc on peut sembler. Et dans mon livre, je cherchais bien.
Je vais rattraper Pierre. Je vais rattraper Pierre sur ces migrants et sur ces personnages, en fait. Pourquoi vous avez choisi donc, de mettre en scène dans particulièrement des gens qui veulent absolument entrer, parce qu'on écrit donc cette Europe que vous avez écrite finalement assez cauchemardesque avec tous ces gens enfermés, heureux de leur confort, dans leur temps ralenti, mais finalement ceux qui sont à l'extérieur, eh bien, ils en veulent absolument ce cauchemar.
Mais justement, pour mon premier, c'était de montrer que justement, tous ces gens sont à l'extérieur et qui ont connu ce que les colonisateurs ont voulu aborder, ont eu un rêve de normal, mais
aussi, je pense que en science-fiction, l'Europe est un sujet absolument intéressant. Je ne peux pas revenir éternellement. Il n'a pas éternellement utilisé. Moi, personnellement, j'ai utilisé trois fois dans cette forme. Et ensuite, dans un autre roman qui s'appelle Congo Quentin, où j'avais cette union entre l'Église et l'Islam. Et puis, donc, dernièrement, il y a 5 ans, j'ai publié un roman qui s'appelle La Terre Blonde, qui lui, alors, parle d'une Europe encore beaucoup plus diverse, c'est-à-dire plus ouverte, mais finalement, tout s'est traduit par une ralentissement général. Les gens ne travaillent pratiquement plus. Les enfants n'ont pas eu. Il y a eu d'abord une belle pour avoir une révolution terrible qui a tout duré, qui se rapporte un peu dans leur vie. Et après cette révolution, donc on s'est rendu compte que les parents n'éduquaient pas leurs enfants, qu'il fallait trouver les robots, donc créer les robots, qui étaient les robots instructeurs, et donc c'était des espèces de robots très légers, plein de formes avec une cervelle extraordinaire, et qui éduquaient les enfants. Donc l'histoire raconte un personnage qui a perdu son robot d'enfant et qui va le retrouver, ça l'embête. Finalement, il se rend compte que c'est le robot lui a tout appris. Et là, il découvre le monde tel qu'il se fait aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens ne travaillent plus que 4 heures par jour, 4 jours par semaine, que la civilisation du loisir a tout envahi, que finalement tout est fait par des robots. Et finalement, c'est un peu aussi une tendance de l'Europe à repousser le travail, à repousser toutes ces valeurs fondamentales qui ont créé le monde dans lequel nous vivons. Et voilà aussi un travail sur l'Europe que j'ai accompli. Je pense qu'on peut le faire, je ne sais pas combien, et je pense que c'est dommage que les auteurs français, bien que ce que tu me dis, des spécialités, mais enfin la plupart des auteurs français ne s'occupent pas beaucoup de cette Europe, et à mon avis, c'est quand même quelque chose d'absolument évident, surtout c'est un sujet de science-fiction profond, parce que ça permet de montrer les mutations politiques, les mutations civilisationnelles, les différences de l'évolution de la société, l'évolution de la mentalité des gens. Enfin, on peut spéculer à l'infini sur l'Europe et sur ces sujets.
Avant la Première Guerre mondiale, il y avait peut-être plus d'utopistes européens.
Oui, après, là, je suis parti. Toute ma conviction sur l'Europe est partie d'un roman de Stefan Zweig. Pas d'un roman, mais d'un travail que Stefan Zweig avait fait, où il rencontrait des écrivains dans le monde entier. Et il y avait une vision très européenne, très approfondie. Et il racontait que finalement, quand il arrivait en France, alors que dans le monde entier, les gens tapaient la machine en France, continuer à écrire à la main. Je ne sais pas pourquoi ça m'a déclenché une horreur. Je me suis dit, immédiatement, je suis bien tapé à la machine pour devenir un homme de demain.
Je reviens donc à vos personnages qui sont dans vous, qui voient l'Europe comme un paradis. Vous avez choisi de les mettre en scène.
Oui, alors, un livre qui est écrit en 1995-1996 et qui met en scène un accident en Algérie, ce n'est pas un accident, c'est-à-dire qui inclut les États-Unis plus que la couleur antique, qui est Israël et la Grèce, tout ça. La Grèce est en termes d'existence. En tout cas, qui est un appareil électromagnétique qui est un franchissable de 6 mètres de hauteur et autant en profondeur. Et ce rideau, autour de ce rideau, s'est concentrée toute une population misérable qui sont les descendants des armées d'invasion qu'on s'y envoyait alors en plein moment. Et là, on se retrouve avec un personnage qui est en Silésie, donc en partie de Pologne, qui est un Chinois, qui descend d'un soldat de l'armée chinoise, et qui va être obligé de s'évader de ce monde étant agi par les criers, des groupements mafieux. Et ce personnage va être obligé de faire une volée des cigarettes à sa grand-mère et rentrer en Occident dans les portes de secours de temps en temps. Et il y a une rue vers des immigrants vers l'Europe à ce moment-là, parce que pour eux, l'Europe, c'est le paradis, le rêve, etc. C'est ce qui va les sortir de la pauvreté. Les attend à l'intérieur, un sort qui n'est pas du tout enviable. Donc on découvrira, pour ceux qui n'ont pas encore lu le roman, une fois qu'ils sont rentrés à l'intérieur. Et ce qui m'intéressait, c'était de montrer cette tentation d'être enfermement, parce que je disais, qui est stérile, à mon avis. Je pense qu'on a besoin de se renouveler par les mélanges, par l'acceptation de l'autre, par les autres cultures.
c'était vraiment comme une histoire. Et puis, ouais, mais tu crées un mur en 95, alors qu'en 87, tu es tombé le mur de Berlin. C'est complètement idiot ton truc. Or, les murs, ils ont repoussé ce qu'ils étaient là, ils ont repoussé un petit peu partout, parce que c'est une tentation permanente, depuis le mur de Chine, depuis le mur d'Adrien, depuis tous ces murs qu'on a poussés, qui ont servi strictement à rien d'être. Donc, c'est cette tentation de l'enfermement qui, à mon avis, est stérile, est tombée à la stérilité. Donc, c'est ce que je voulais juste rendre en monde. Et en fait, les Européens sont tellement stériles qu'ils ne vivent leurs émotions, leurs sensations que par procuration. Ça sera dans des machines qui s'appellent des sensoriseurs qui leur permettent d'expérimenter tous les sens en perdant des chaînes de télévision, des cinq sens. Et il y a des guerres uchroniques où les immigrants servent de soldats et risquent la mort sur ces champs de bataille pour reconstituer les batailles du passé. Et quand on est occidental, on peut se brancher dans ce sensoriseur sur un ou deux personnages de la guerre uchronique qui ont déployé. Et donc d'expérimenter ce qui expérimente un combattant sur le champ de bataille, la douleur, la souffrance, la fatigue, la difficulté. Et donc voilà, donc on est dans des personnages qui ne vivent plus par eux-mêmes, qui ne savent plus vivre que par procuration, qui ont besoin d'un vigueur, des gens qui entrent en Occident pour pouvoir continuer à vivre.
Et ce que je trouvais intéressant dans cette approche, c'est aussi de voir tous les dangers, dans le fond, tout ce qu'ils doivent surmonter, ces gens, pour accéder à leur rêve. On n'imagine pas, on les voit comme ça arriver, mais on ne sait pas déjà ce qu'ils abandonnent, et on ne sait pas les dangers qu'ils doivent affronter.
Oui, ce qui est grand, c'est les migrants d'aujourd'hui qui traversent des mers sur des bateaux, sur des combats, etc., avec des surchargés. Oui, bien sûr, des combats, nous, Européens, en ce moment, on a des migrants qui traversent les États-Unis, et c'est aussi extrêmement difficile de traverser un bateau, puis avancer vers l'ouest avec des chariots, avec le danger que ça comportait, enfin, chaque migration est difficile. On quitte un habitat connu, un pays connu, pour rentrer dans l'inconnu, mais on croit de multiples dangers. Et puis, il ne faut jamais oublier, ça, je vais faire une nouvelle, que ça peut se tourner peut-être contre les Européens, mais c'est contre les Américains, parce qu'à un moment, peut-être que c'est nous qui allons être obligés de migrer. Peut-être qu'un jour, enfin, l'Inde et la Chine seront les puissances économiques qui vont attirer le monde avec nous. Après, nous serons obligés aussi d'aller travailler là-bas et de heurter aussi aux difficultés d'acceptation, de franchissement, d'être face à de multiples pays, de multiples dangers, et pour être refoulé des frontières, peut-être parqué dans des camps, ça peut nous arriver aussi.
Ça, c'est un volume supplémentaire de la réflexion roman. Je crois que dans votre trilogie, il y avait un quatrième tome qui était prévu et qui n'était pas réellement, c'est qui était La Force du Jour. Alors, où est-ce qu'il est?
Oui, La Force du Jour, je connais le livre, tous les personnages, c'est un grand roman qui sont complètement indépendants. Mais pour devenir un futur optimiste.
C'est une utopie, c'est ça?
Oui, c'est une utopie. Mais finalement, j'ai relu M. Bass, c'est le seul homme de H.G. Wells. Je suis tellement ennuyé que je me suis dit, non, je ne peux pas écrire une utopie. Donc j'ai continué à écrire des dystopies. Et par exemple, le grand souvenir du futur, justement, pour le problème chinois, j'imaginais que les capitalistes chinois avaient chassé les communistes et que les communistes s'installeraient en Yougoslavie, qui créent un nouveau front à l'intérieur de l'Europe, qui est tout à fait différent.
Et alors, l'utopie européenne, elle n'est pas possible.
L'utopie européenne, elle est dans mon esprit, elle est dans l'esprit de beaucoup de gens. Malheureusement, entre ceux qui ont ce vertige de l'utopie et ceux qui la réalisent, il y a un gouffre absolument gigantesque. Mais je pense quand même que finalement, parler de mixité, je crois que la mixité et le métissage est quelque chose de profond qui avance sans qu'on s'en rende compte. Et ce métissage va nécessairement justement broyer les catégories, changer les rapports entre les gens. Le problème, c'est que finalement, tout le monde pense que l'Europe se fait en quelques jours parce qu'on la décide, qu'on a voté trois lois, qu'on a voté des constitutions qui n'existent pas. Non. Une réalisation utopique comme celle qui pourrait être l'Europe, ça met des siècles à se réaliser. Donc nous, en tant qu'être passagers de notre histoire, nous pensons que c'est dommage, que rien ne se passe. C'est pour ça qu'on écrit ces romans. Mais on écrit ces romans pour que dans 200 ans, tout fonctionne.
Non, mais je suis d'accord avec lui, écrire des utopies avec un casse-pied. Comme quand c'est un roman, par exemple, ils ont beaucoup d'enfants. Si les enfants ne sont pas, ils sont
Parce que c'est une langue qui change un peu de mémoire. Alors, je vais écrire l'euro.